On est arrivé au cinquième chapitre, hein, quand même. Je ne sais pas depuis quand on a commencé, mais ça fait un petit bout de temps, me semble. Donc Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Donc la section, chapitre 5, versets 1 à 6, peut être rattaché un peu à la section précédente, chapitre 4, versets 13 à 17. Vous vous rappelez où on avait parlé du fait de où l'apôtre, ou plutôt Jacques, exhorte les croyants à ne pas faire des projets hors de Dieu. Voilà. Et de pouvoir dire chaque fois qu'ils font quelque chose, si Dieu le veut. Parce que parfois on dit voilà, demain nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Et donc il avait enseigné cela. Et si vous regardez comment commence le verset 13, il y a vous maintenant qui dites. Et puis au chapitre 5 verset 1, il dit à vous maintenant riches. La structure est un petit peu pareille. Donc il parle à une certaine des personnes. On dit, c'est pour ça qu'on dit que ces deux sections sont proches. Hein, par la manière avec laquelle elle commence. Et donc les versets 4-13 concernaient vraiment une grande mise en garde contre ceux qui entreprennent des projets économiques ou comme vous voulez, socio-économiques, et en gardant vraiment Dieu hors de leur plan. Et dans la section qui nous intéresse, il y a aussi une grande mise en garde sur la manière d'utiliser les richesses en écartant Dieu, en écartant toute considération divine. C'est ce qu'on lit ici, donc je relis les 6 premiers versets. Il dit « À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par la teigne, votre or et votre argent sont rouillés, et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. » Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, et vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné et vous avez tué le juste. Qui ne vous a pas résisté. Alors voilà, ici, le thème, un peu, c'est quoi ici? C'est, on pourrait dire, c'est les richesses. Pauvreté et richesse. Hein? C'est, on pourrait dire ici, le grand thème. Et est-ce qu'à votre avis, ce thème est beaucoup évoqué dans la Bible, dans l'Écriture? Pauvreté et richesse. Ou est-ce que c'est... Est-ce qu'on trouve ça un peu partout? Si, voilà, un petit sondage, qu'est-ce que vous pensez qu'on trouve ça un peu partout? Est-ce que c'est assez accessoire? Est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous viennent? Oui, dans les proverbes, on trouve ça. Dans les psaumes aussi, oui. Oui, Jésus. Mm-hmm. Est-ce que vous avez pas les références bibliques, mais des situations particulières? Voilà, il y a le riche et Lazare, hein. Il y a ça. Oui, le jeune homme riche, puis la vie éternelle. Voilà, pas mal. Voilà, il y avait la pauvre veuve et puis ceux qui donnaient beaucoup. Donc il y a, c'est vrai quand même, déjà rien que dans les évangiles, on en trouve pas mal. Mais c'est vrai qu'on en trouve aussi dans les psaumes, on en trouve dans les proverbes. Est-ce qu'on en trouve dans les épîtres? Oui, hein. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, hein, d'accord. Donc ça, c'est dans les épîtres pastorales, on trouve ça. Dans les épîtres de Paul, on trouve aussi des choses. Et en Galates, il est question de se souvenir des pauvres. Et dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on en trouve? Oui, on en trouve aussi beaucoup. En fait, c'est un thème qui est très très développé dans la Bible, et le contraste prospérité et pauvreté est assez utilisé. D'ailleurs, lorsque Jacques parle, hein, il parle avec une toile de fond, on pourrait dire, hein, avec un arrière-plan qui vient de l'Ancien Testament. Et ce qu'il dit, des fois, il y a si on lit bien, il y a des rappels comme cela à des choses qui sont dites dans l'Ancien Testament. Donc, pour bien comprendre l'enseignement de Jacques ici, il faut certainement aller voir un peu ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Mais déjà dans Jacques lui-même, c'est pas la première fois qu'il parle de ce thème. Donc, si vous regardez Jacques au chapitre 1, versets 9 et 11, quelqu'un peut peut-être lire ça, hein. Jacques 1, 9, 11. Quelqu'un a ça? Dès que vous l'avez, vous lisez. Hein.
Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation.
Continue, 9 à 11, oui.
Oui, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme le fleuve de l'air, le soleil s'élève avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'air, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises.
Voilà. Donc ici, vous voyez, question encore riche, pauvre. Hein, il y a déjà ça, déjà de ce chapitre-là. Et au verset 27 du chapitre 1, quelqu'un a le verset 27 du chapitre 1? Oui. 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 Alors, quelle est la chose qui rappelle la richesse, prospérité ou pauvreté ici? Les afflictions, ouais. Les veuves et les orphelins, c'était des gens qui étaient démunis en général. Hein. Il n'y avait pas de pension, de reversion. Hein, pour les veuves. Hein, et maintenant, on a ça, les femmes, elles ont ça quand leur mari décède, mais ces personnes n'avaient pas cela, et puis les orphelins non plus n'avaient pas. Donc ça c'est un thème qui rappelle, hein, ici, cela. Chapitre 2, versets 1 à 7. Chapitre 2, quelqu'un, chapitre 2, ici. Et on va lire pas tout, on va pas tout lire, mais peut-être le verset. Chapitre 2, à partir du verset. Oui. Voilà, si on peut s'arrêter là. Donc là, vous voyez, il y a le contraste encore entre le favoritisme que l'on fait entre une situation, quelqu'un qui rentre dans une assemblée, et puis un riche, un pauvre. Un peu plus loin, il dira que vous portez les yeux sur les riches. Ils disent Dieu a fait les pauvres, hein. Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi. Et puis même chapitre, versets 14 à 17. Alors, c'est bien même chapitre 2, pardon, chapitre 3. 14 et 17, quelqu'un a ça?
Oui.
Vas-y.
Mais enfin, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Le sauver, du moins, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux vous leur dise: venez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous lui donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il?
Voilà. Très bien, merci. Donc là encore, on voit quoi? Quelqu'un qui est dans le besoin et que l'on doit aider, et que l'on dit va, réchauffe-toi, habille-toi, etc., comme vous voulez, mais on ne fait rien pour aider cette personne. Donc c'est encore un rapport entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas ici. Chapitre 4, versets 1 et 3, donc on va pas lire tout de suite, mais vous vous rappelez de ça, quand il était dit, vous êtes envieux, etc., vous n'avez pas, vous ne possédez pas, hein. Il y a cette idée aussi de choses que l'on fait pour avoir, hein. Et puis finalement, on a rien. Chapitre 4, versets 13 et 17, donc si vous regardez le verset 13 et 17, C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Il dit à vous maintenant qui dites quoi, aujourd'hui ou demain, nous allons faire ceci ou cela, nous allons trafiquer. Donc il est question de trafic, de gain, de profit, etc. ici. Donc, vous voyez ça encore? Et puis après, eh bien, c'est le chapitre 5 que nous avons lu, versets 1 à 6. Donc vous voyez que déjà dans l'épître de Jacques, à plusieurs endroits, il fait déjà allusion à ce thème. Alors, si on revient sur l'arrière-plan dans l'Ancien Testament, ici, si on veut bien comprendre ce que Jacques dit, il faut voir quel est son schéma de pensée ici et qui vient de l'Ancien Testament. Alors, selon un commentateur, hein, il dit on peut dire que la tradition sur ce thème de la prospérité, du pauvre, la pauvreté, de la richesse, ici, peut se résumer en quatre grands points quand on regarde l'Ancien Testament. Alors, premièrement, que Dieu est particulièrement concerné par les pauvres, les opprimés, les bannis, les veuves, les orphelins. Hein. Quand on lit l'Ancien Testament, on voit que Dieu, il est préoccupé par ces personnes. Il est concerné par ces personnes. Il ne les met pas de côté. Alors, par exemple, le psaume, quelqu'un peut chercher ça, hein, psaume 68, versets 5 et 6. Et puis quelqu'un d'autre cherche Deutéronome 10, versets 17 et 18. Donc, celui qui a psaume ou celle qui a psaume 68, 5, 6, vous lisez, et dès que vous l'avez. Et puis, Deutéronome 10, 17 et 18. Psaume 68, quelqu'un là? Oui.
Chantez à Dieu, célébrez son nom. Priez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure.
Voilà comment Dieu est défini ici, hein. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, hein, dans l'Ancien Testament. Donc ça, c'est une chose à retenir. Ensuite, Deutéronome 10, quelqu'un, hein? 17, oui. Voilà. Est-ce que vous sentez pas un peu du Jacques là-dedans? Je sais pas si vous lisez bien. Il parle de quoi? Il parle de Dieu qui ne fait pas exception de personne. C'est le chapitre 4, versets 13 à 17, hein. Il dit, mes frères, ne faites pas de favoritisme, etc. Et puis il dit qu'il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Ça vous fait penser à quoi? Quel chapitre? Chapitre 1, verset 27 qu'on a lu tout à l'heure, hein. La religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins dans leurs afflictions, etc. Hein. Et puis, donc il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne la nourriture et le vêtement. Hein. Si vous avez de quoi pouvoir, et puis vous dites, va, réchauffe-toi, mais vous ne donnez pas de quoi réchauffer, c'est un petit peu ça ici. Vous voyez donc, toutes ces choses, on peut dire, sont dans l'esprit de Jacques quand il écrit. Deuxième chose, donc là, c'est pour montrer que Dieu... Le premier thème, hein, c'est que Dieu est particulièrement concerné par les pauvres, les opprimés, les bannis, les orphelins, ceux qui sont en situation, on va dire, précaire. Deuxième point par lequel on peut résumer un peu l'enseignement, c'est que le peuple de Dieu, dit cet auteur en tout cas, c'est que le peuple de Dieu doit manifester une attention semblable à celle de Dieu envers ceux qui sont dans la précarité. Donc Dieu, il est concerné par ceux qui sont dans la précarité, que ce soit à cause du veuvage, à cause de l'orphelinat, c'est ce qu'on dit? Non, c'est pas comment il faut le dire. Non, ça n'existe pas, il n'y a pas de mot pour le dire. À cause du fait d'être orphelin, d'accord, l'orphelinat c'est le lieu, mais... Et puis, ou que ce soit la pauvreté, mais il dit, mais il veut aussi que ses enfants soient concernés par ces choses-là. Et donc, dans l'Ancien Testament déjà, on trouve des reproches qui sont faits par les prophètes au peuple ou aux dirigeants du peuple parce qu'ils n'ont pas pris soin des personnes en situation précaire. Alors, je vais vous lire. Ésaïe, chapitre 3, verset 14, dit « L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. » De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Et on pourrait lire quantité de versets qui sont à peu près sous ce thème. Et vous vous rappelez dans l'Ancien Testament les lois qui étaient données lorsque l'on moissonnait pour laisser. Rappelez-vous le livre de Ruth. Hein, lorsque l'on moissonnait, il fallait pas ramasser les choses qui tombent. Il fallait les laisser pour les pauvres. Et pour ceux qui n'avaient pas dit, tu ne retournes pas pour ramasser, c'est la part du pauvre. Donc, et Dieu veut que son peuple soit aussi concerné par la situation des précaires. On pourrait lire Ésaïe 1, mais lisez-le chez vous, on n'aura pas le temps, mais 1, verset 10 jusqu'à 17, par exemple, ou Malachie, chapitre 3, verset 5. Hein, ça, vous vous rappelez, on avait vu cela quand on avait fait le livre de Malachie. Donc Dieu... Le peuple de Dieu aussi, pardon, doit manifester une attention semblable à celle de Dieu envers ces personnes qui sont aussi des personnes précaires. Parce qu'il est appelé à ressembler hein, à Dieu. Vous serez saint car je suis saint, dit Dieu, mais il dit vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Lorsqu'il dit dans Matthieu, par exemple, hein, que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, il dit que l'enfant de Dieu doit être aussi avec une bonne attitude, aimer ses ennemis, etc., pour être à la ressemblance de son Dieu. Et puis troisièmement, il dit que la tendance particulière dans les psaumes, particulièrement dans les psaumes, représente le pauvre comme pieux et juste assez souvent. Si vous lisez les psaumes, vous allez voir qu'il y a les psaumes sont présentés parfois et les pauvres sont présentés quasiment comme les justes et les pieux. Contrairement aux méchants qui sont souvent représentés dans la richesse. Alors, par exemple, le psaume 37, versets 10 à 18, fait cela. Mais par exemple, si vous lisez Ésaïe 29, 19, je vous le lis, Ésaïe 29, 19, il dit « Les malheureux se réjouiront de plus en plus. » Les malheureux, vous voyez, c'est ceux qui sont vraiment hein, dans les situations de plus en plus en l'Éternel. « Et les pauvres feront du Saint d'Israël » le sujet de leur allégresse. Hein? Donc voilà, c'est comme si ceux qui sont dans cette situation ont une bénédiction particulière. En tout cas, ils sont considérés parfois comme les justes, comme ceux qui bénéficient du regard bienveillant de Dieu, comme ceux qui vont pouvoir se réjouir de Dieu. Psaume 40, verset 18, un autre exemple dit « Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas. » Encore une fois ici, on voit celui qui clame sa pauvreté, mais il dit, en contrepartie de cela, eh bien voilà, Dieu pense à lui. Donc il est clair que souvent dans ces contextes-là du psaume, on trouve des personnes qui sont opprimées et qui expriment vraiment le fait que Dieu leur vient en aide. Donc il y a un lien parfois qui est fait entre le fait d'être pauvre et puis la piété ou le juste. Hein. Le juste, parfois, est assimilé à celui qui est pauvre, sans défense et qui est opprimé par les autres. Bon, ce n'est pas à dire que parce qu'on est pauvre, on est systématiquement à Dieu, hein, mais c'est juste parfois dans les psaumes, c'est représenté un petit peu comme ça. Les pauvres qui sont représentés ici, en tout cas, sont certainement ceux qui font confiance à Dieu. Mais ce n'est pas parce que l'on est pauvre que l'on fait confiance systématiquement à Dieu. Hein. Il y a des pauvres qui sont aussi endurcis. Et puis il y a des riches qui sont aussi au Seigneur. Alors, je continue ici. Ça, on pourrait dire que ça, c'est un petit peu la trame, hein, puis les riches sont parfois, on va pas lire, mais représentés aussi comme les méchants, les rudes, ceux qui exploitent, etc. Et c'est un petit peu le langage de Jacques ici, quand vous lisez au chapitre 5, quand il dit « À vous, maintenant, riches !» Et après, ce qu'il dit derrière, c'est « Pleurez et gémissez !» Donc il prononce un jugement sur eux. Donc il présente comme des personnes qui sont rudes, qui exploitent. On va voir ça une autre fois, on ne va pas trop s'attarder là-dessus aujourd'hui. Alors, on a vu donc les richesses et pauvretés dans l'épître de Jacques. Et certaines personnes, en lisant ça, ont déduit que Jacques, c'est comme si Jacques disait qu'on ne peut pas être riche et chrétien. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites ici, des fois, et puis quand on regarde l'arrière-plan, on a l'impression que la richesse et le fait d'être chrétien est quelque chose d'incompatible. Mais bien sûr, l'Écriture ne soutient pas du tout cela. Et Jacques non plus ne le dit pas. D'ailleurs, le chapitre 1, versets 9 et 10 qu'on a lu, il semble que l'homme riche qui est présenté ici soit aussi un chrétien. Aussi, hein. Donc ça, c'est une chose qui est importante à considérer ici. Donc Jacques ne dénonce pas le riche ou la richesse en tant que telle, mais c'est pas la richesse en elle-même qui est un problème, mais ce sont, on pourrait dire, les complications que la richesse peut amener. Enfin, la richesse amène des complications. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Hein? Bon, peut-être on voudrait bien être riche quand même. Il y a des gens qui disent, d'accord, ça amène des complications, mais je veux bien avoir des complications un peu. C'est comme les gens qui disent, on a dit, mais si tu gagnais beaucoup, tu paierais beaucoup d'impôts. Et ils disent, j'aimerais bien payer beaucoup d'impôts. Il me resterait quand même quelque chose. Hein? D'accord, donc, ce n'est pas donc quand même le problème n'est pas sur la richesse ou sur les riches, mais sur vraiment le danger que cela peut amener. Quand on lit bien ce que Jacques dit dans cette épître. Alors par exemple, on va reprendre les différents endroits où il parle de cela, et puis vous allez essayer de dégager vous-même qu'est-ce qu'on pourrait résumer, qu'est-ce que Jacques dit en substance dans cette section-là. On reprend les sections qu'on a vues tout à l'heure. Donc si on prend, enfin pas tous forcément. Si on prend chapitre 1, verset 27, je vous le relis. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Okay? Donc, on va essayer de réfléchir en termes de complications, quelles complications, quel danger peut-être est mis en évidence ici par rapport à la richesse. Oubliez ceux qui n'ont pas. Hein. Parfois, il y a des gens alors qui sont de conditions bien moins que la nôtre, même si on ne se considère pas comme riche, mais on peut néanmoins oublier. C'est-à-dire que, oui, on peut redire ça. Moi, j'ai mis que la richesse qui est agissant dans le cœur peut, dans un cœur qui est léger, qui n'est pas sensible, peut fermer les yeux sur le besoin des autres. On peut être et parfois c'est pas simplement un oubli, c'est parfois parce qu'on est le fait qu'on soit bien peut faire qu'on est insensible aux besoins des autres. Quand quelqu'un passe dans le métro, demande quelque chose, etc. Bon, des fois on peut donner, puis d'autres fois on est moins. Et ici, je pense que Jacques souligne cela. Si on regarde, par exemple, chapitre 2, versets 15 et 17, c'est un peu la même pensée. Quand il dit, vous envoyez quelqu'un en disant, va, chauffe-toi, etc. Bon, vous êtes au chaud. Vous lui dites, va, vous n'êtes pas sensible forcément aux besoins de l'autre. Vous lui dites, chauffe-toi, sans penser même à lui donner ce qui serait nécessaire pour son chauffage. Et ça vient, et on va le voir de plus en plus, avec un cœur qui est, qui est dans le confort, hein. Et quelqu'un faisait remarquer une fois que quand on demande une pièce de monnaie, il est plus facile d'obtenir de quelqu'un qui a peu que de quelqu'un qui a beaucoup. On a l'impression que celui qui a beaucoup, il ferme plus son cœur. Le cœur semble plus fermé. Et je pense que Jacques souligne ça ici, quand il dit, voilà, il y a des veuves, il y a des orphelins, et vous dites que vous êtes enfant de Dieu, attention, mais la religion pure consiste à s'occuper de ces personnes-là. Hein? Donc vous qui avez la possibilité, occupez-vous d'elles. Donc possibilité pour d'être aveugle sur les besoins des autres. Chapitre 2, versets 1 à 7. Donc, dans le chapitre 2, versets 1 à 7, on avait lu, on parlait de, ici, du favoritisme. C'était ça, hein? Ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici sur un danger de la richesse? Ou une complication que cela peut amener? C'est de lire ces versets. Alors, je le relis rapidement, mes frères. Que votre foi, notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, soit exemple de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre quelqu'un dans votre assemblée, un homme avec un anneau d'or, un habit magnifique, et qu'il y entre un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi debout » ou ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait résumer ça? Quel est le danger qu'amène parfois la richesse? Oui, voilà. Hein. On apprend à juger les gens par leur apparence matérielle, la manière avec laquelle ils sont vêtus ou ce qu'ils ont, le poste qu'ils occupent. Et ça peut nous pousser à faire quoi? À faire du favoritisme, oui, voilà, c'est ça. Ça peut nous pousser à faire du favoritisme, à vouloir être comme ça, à chercher la compagnie de ces personnes-là à cause de l'argent. À cause des moyens ou à cause de ce qu'on peut recevoir d'eux, peut-être, je ne sais pas, il y a certainement des raisons comme cela derrière. Donc on traite le riche avec honneur et on traite le pauvre, oui, voilà, presque en méprisant. Voilà. Et si vous faites attention, vous allez remarquer que les personnes qui sont souvent riches aiment être entre elles, hein, et faire des choses entre elles, et se renvoyer l'ascenseur entre elles. Voilà. Et puis et mépriser celles qui sont pauvres. J'avais lu sur les bateaux. Enfin, j'avais lu l'histoire du Titanic. Les ponts étaient conçus de manière à ce que le bas peuple ne rencontre pas dans aucun déplacement les personnes riches. Il faut pas que ces personnes se mélangent. Mais est-ce que c'est très différent aujourd'hui? Pas beaucoup, hein. Quand vous regardez, hein. Pas beaucoup. Il y a des quartiers que vous pouvez pas habiter, même si vous voulez les habiter, hein, parce qu'il faut montrer. Il faut montrer pas de blanche. Ça va être difficile pour moi, mais il faut montrer, voilà, porte-monnaie gonflée, si on veut dire. Hein. Il faut montrer qu'on a les moyens. Et même si on a les moyens, parfois ça suffit pas, hein, parce que il y a tout un réseau, etc. Donc voilà, ça crée quand même un clivage, qu'on le veuille ou non, ça crée quand même un clivage. Et on peut tomber dans cela. Tant qu'on n'a pas, c'est pas un problème. Mais le jour où il nous arrive d'hériter, peut-être parfois, je sais pas, une grosse fortune, il arrive que des gens changent complètement parce qu'ils ont peur que les gens ne viennent les voir, ou leur demandent, etc. Et donc, on commence à faire des classifications, des distinctions entre les gens. Et les personnes de conditions modestes, même, parfois, jugent aussi d'après les apparences, les richesses, etc. Et puis, inconsciemment, on a tendance à chercher si la compagnie de ceux qui sont peut-être plus aisés au détriment de ceux qui sont moins aisés. Donc c'est un danger qu'il faut pas négliger. Chapitre 4, verset 13 à 17, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici comme danger? Cela, on va regarder ça un petit peu. Quel danger peut être mis en évidence ici? Alors là, c'est quand il dit, si vous dites, aujourd'hui, nous allons dans une ville, nous allons trafiquer, nous allons faire ceci, et nous y gagnerons, etc., etc. Il dit, vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Qu'est-ce qui est mis ici en évidence, là, un peu? C'est? On oublie Dieu? Oui, j'ai entendu une autre chose aussi. On se fie sur la richesse, la confiance en soi, et on se confie dans la richesse. Oui, alors si on pouvait faire une petite phrase avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, j'ai mis ici, hein, on voit le danger de vivre en athée, pour un enfant de Dieu. C'est-à-dire comme quelqu'un qui n'a pas foi en Dieu. Parce qu'il prend ses décisions, il fait ses plans, sans considérer Dieu, comme s'il n'y a pas de Dieu. Demain, nous allons ici, nous allons faire passer une année, nous allons trafiquer, nous allons investir, nous allons gagner temps, etc. Et puis nous allons partir après là-bas. Bon, c'est ça un peu que Jacques dit ici. Il dit, dites, si Dieu le veut, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'on est maître de soi quand on a de l'argent, quand on est très riche, quand on est riche, quand on a les moyens, quand on est confortable. Et rappelez-vous les histoires que Jésus raconte quand il parle du riche insensé dans Luc chapitre 12, verset 15 à 21. Regardez ça, Luc chapitre 12, verset 15 à 21. Voilà, Luc 12, Je vais on peut regarder quelques versets de ce passage. Luc 12, chapitre 15. Il est question donc d'un... c'est bien Luc 12. Non, on va pas tout lire. Attends, on va pas tout lire, Pierre. Ouais. Non, ne lis pas, on va pas tout lire. Je vais juste regarder quelques versets. Oui. Ces versets... Voilà, il dit, verset 15, il dit « Gardez-vous de toute avarice, il dit, parce que la vie d'un homme ne dépend pas de tous ses biens, même s'il vit dans l'abondance. » Vous voyez ça, déjà, on le fait de mettre sa confiance dans les biens, même si les biens sont abondants, il dit que la vie d'un homme ne dépend pas de tous ses biens. Et puis il raconte cette histoire de cet homme qui a eu une bonne récolte et puis qui se pose une question. Quelle est sa question ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et le texte ne dit pas, il prie pour savoir, Dieu, comment veux-tu que j'investisse cette récolte supplémentaire ? Est-ce que je la vends ? Est-ce que je distribue ? Etc. Il dit, voilà ce que je ferai. Il raisonne en lui-même, il dit, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, je stockerai ma récolte, et puis qu'est-ce que je vais dire ? Il dit, qu'est-ce qu'il dit à son âme ? Mon âme, tu as des biens en réserve pour longtemps, il dit ça, pour plusieurs années, c'est ça qu'il dit, je crois. Hein. Qu'est-ce qu'il dit ? Quel verset ? Voilà, pour plusieurs années. Réjouis-toi, mange, bois, voilà, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. D'accord ? Donc vous voyez ici, il est certain de vivre plusieurs années. Et c'est ce que Jacques dit. Il dit, vous qui dites nous gagnerons, nous trafiquerons. Il dit, vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Lui, il ne savait pas de quoi sera fait demain. Mais il a projeté de vivre plusieurs années. Il a stocké pour vivre plusieurs années. Sans considérer Dieu dans ce qu'il a fait. Okay ? Et Dieu, Jésus dit ici à la fin de ce qu'il raconte, il dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, vous voyez ici ? Donc ça, c'est quelque chose, c'est un danger aussi, hein, le danger de vivre comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui prend des décisions sans Dieu. Hein, vous pouvez acheter, quand vous pouvez acheter ce que vous voulez, vous ne vous posez pas des questions de budget, vous pensez pas, on ne pense pas forcément à consulter Dieu, savoir est-ce que je dois faire cette dépense ou pas. Quand il y a peu, on se dit, ah, il faut équilibrer, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Ou alors on prie même que Dieu pourvoie. Mais quand il y en a, on prie pas pour que Dieu pourvoie. Et j'ai un ami à Bordeaux qui est cuisinier, il était cuisinier, il est à la retraite maintenant. Mais il me dit, tu vois, Albert, il est chrétien, mais il me dit, tu vois, par exemple, la prière que Jésus donne, il dit, donne-nous notre pain quotidien, etc. Il dit, quand on est cuisinier, il me dit, moi, des fois, je me suis rendu compte que je prie pas pour que Dieu pourvoie mes besoins pour la nourriture. Il dit, je travaille à la cuisine, je prends ce qui reste, je rentre chez moi. Tu vois, donc il dit, le fait d'avoir des choses à disposition fait que parfois dans certains domaines, on oublie de prier Dieu même pour les choses. Même si on peut acheter la nourriture, on peut prier Dieu, lui dire merci pour la santé qu'il nous donne, qui nous permet de travailler, d'avoir les sous, d'acheter la nourriture. On finit par vivre comme si voilà, c'était quelque chose de normal et on oublie Dieu. On vit en athée quelque part. Hein. On vit en athée, en tout cas dans ces domaines-là. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ce que Paul souligne ici, à Timothée, il dit que tu enseignes ça parce que les riches, ils sont dans un problème, il y a un danger qui les guette. Dis-leur ça! De ne pas mettre c'est quoi le problème? C'est la tentation de mettre la confiance dans la richesse plutôt que de le mettre en Dieu. Parce que la richesse apporte une certaine sécurité, il faut le reconnaître. Okay? Et donc si Paul dit ça à Timothée, c'est que le danger, il est réel. Parce qu'on l'Écriture ne donne pas des avertissements là où il n'y a pas de danger. Hein? L'Écriture est efficace. Donc s'il y a un avertissement, c'est qu'il y a un danger réel à cela. Je vais terminer, on va s'arrêter là, mais juste quelques mots pour dire que, bon, ce qu'on lit ici, ce n'est pas un appel à mépriser la richesse, ou à mépriser les riches. Hein. Je sais qu'en France, on a un problème avec ça. Il y avait même un président qui avait dit « j'aime pas les riches ». Hein? C'est pas ce qu'on est appelé à faire ici. Hein? Et d'ailleurs, quand on trouve des gens qui méprisent la richesse des riches, parfois c'est une manière d'exprimer leur aspiration ou parfois leur jalousie. Hein? Donc, personne en fait n'est appelé à mépriser et personne ne méprise les biens de la terre. Nous ne devons pas mépriser la richesse. Parfois, Dieu donne la richesse. Et donc, on ne peut pas mépriser ces choses-là. Et Spurgeon disait qu'on entend souvent des personnes qui disent, qui pour montrer qu'elles sont tellement détachées de l'argent, appellent des pierres précieuses de jolis cailloux. Et il dit, il y en a même qui appellent l'or de vulgaire ville poussière. Il dit, mais seulement j'ai remarqué, autant qu'il l'appelle ville poussière, il ne se presse jamais à prendre un balai pour balayer cette poussière et puis la ramasser et la jeter au fumier. Et il dit, d'ailleurs, s'il le faisait, il dit, je serais le premier à courir pour ramasser cette poussière parce que je sais que ça me servirait pour l'œuvre de Dieu. Et c'est une manière de dire que c'est le fait de cracher sur les biens, etc., c'est pas ça que la Bible enseigne, de mépriser la richesse, c'est pas ça que la Bible enseigne. Elle nous enseigne ici d'être attentif sur les dangers que cela peut entraîner, de ne pas nous contenter, on peut dire ça après, mais de ce que Dieu nous a donné, de ne pas chercher à être ce que Dieu ne veut pas que nous soyons. Voilà. Et s'il nous donne des biens, bien, de les gérer d'une manière qui soit conforme à sa volonté, en consultant Dieu dans tout ce que nous faisons, ne pas oublier Dieu dans ce que nous faisons, quel que soit l'état dans lequel nous trouvons. C'est ça, l'enseignement qu'il donne ici. Mais ce n'est pas un appel ici à dire, et à mépriser les biens matériels ou les richesses. Ce sont des choses qui sont temporelles, c'est vrai, mais qui sont nécessaires. Hein. Il faudra trouver 600 000 euros pour acheter la salle à Sarcelles. Il faut les avoir. C'est un bien qu'il faudra avoir. Donc, il faudra prier Dieu pour que cela soit possible, n'est-ce pas? Et puis, deuxième chose que je voudrais souligner ici, c'est que nous ne devons pas dire « je ne suis pas concerné parce que je ne suis pas riche hein? ». Moi, je ne suis pas riche. Hein. Tout ça, c'est pour les gens qui sont riches. Nous vivons dans le coin le plus riche de la planète. Hein? Quand nous sommes en Occident, en Europe en tout cas, le plus riche de la planète. Nous avons beaucoup de choses à notre disposition, beaucoup de facilités, des assurances médicales, de la nourriture, en veux-tu, en voilà. Nous avons des chaussures plus que nos pieds ne peuvent en porter. Hein. Des rouges, des bleus, des jaunes, tout ce que vous voulez. Des téléphones, on en a, on en change tous les 2 ans, peut-être maintenant presque tous les ans. On vit vraiment dans l'abondance. Nos frigos regorgent de nourriture. Il faut reconnaître, on fait partie, les gens disent, des 1% les plus riches de la planète. Si on voyage un tout petit peu, on tombe tout de suite dans des endroits où les gens n'ont pas le centième, peut-être même le millième de ce que nous avons, nous, moyennement, ici. Donc ces choses nous concernent parce qu'on peut, avec cette abondance qu'on a, même si on trouve qu'on, comparé aux autres, on n'est pas riche, on est dans ce danger que Jacques décrit ici, d'attacher nos cœurs à ces choses plus que de l'attacher à Dieu. Donc il nous faut prendre ces choses vraiment au sérieux et voir ce que l'Écriture nous dit là-dessus. Donc on va s'arrêter là, et la prochaine fois on rentrera un peu plus en détail dans ce que Jacques dit au chapitre 5 de ce passage. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et pour ton enseignement. Tu veux nous rendre semblables à l'image de ton Fils et tu veux que quels que soient les domaines de notre vie, nous puissions te placer en premier. Aide-nous à considérer ces choses sur ce thème de la richesse et de la pauvreté, de la prospérité que tu nous donnes, d'avoir tes pensées, de vivre en obéissance à ce que ta parole nous enseigne. Je te prie de raccompagner chacun d'entre nous, maintenant dans nos demeures respectives, pour la gloire de ton nom. Amen.